Je pense que nous allons voir nos derniers commentaires sur la quatrième béatitude. Nous allons terminer notre petite étude. Et je pense qu'il serait peut-être indiqué d'aborder la question du comment de la béatitude, autrement dit, comment il faut procéder pour effectivement l'actualiser dans notre quotidien.
Oui. Alors, nous en avons déjà parlé, mais là, nous reprenons ça en mettant surtout l'accent sur le fonctionnement, autrement dit, comment vivre cette béatitude, sur le comment. Alors, quoi faire, si on veut, là encore? Alors, au fond, revenons à ce qu'est la béatitude, et nous allons découvrir tout de suite un peu ce qu'il faut faire.
D'accord.
Alors, la béatitude est comme le but de la vie. Le but de la vie, la réalisation de soi-même. Alors, on vient au monde par un autre, et on est fait pour retourner à un autre. On vient au monde par un autre, pour un autre. Au fond, on est fait pour l'amour, c'est-à-dire habiter l'être qu'on aime. Alors, comment faire pour arriver à aimer? Comment faire? D'abord, connaître l'être aimé. L'étude, étudier l'être aimé, connaître l'être aimé. La lumière, la lumière, la lumière. Et le feu va venir, parce que la lumière est toujours un feu. On parlait d'Eros déjà. Vous avez vu des annonces de danseuses, là, où il y a un brasier ardent. Quand on parle de l'amour, on parle du feu. Ça brûle, ça brûle. Quelqu'un a faim, ça presse, ça brûle. Il en veut, j'en veux, j'en veux. Alors, c'est le feu qui vient de la lumière, l'amour vient de la connaissance. L'amour de Dieu vient de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu vient de la prédication. Elle vient de l'étude et de la méditation de la Bible. Elle vient de la connaissance de soi-même. Mais comment faire encore pour se connaître soi-même? Être connu, être reconnu, être aimé. Alors, au fond, l'amour est engendré par l'amour, mais l'amour vient de la connaissance. Et la connaissance la plus profonde qu'on peut avoir vient de la foi. Alors, la foi, elle nous fait connaître Dieu. L'espérance nous fait nous aimer. Puis la charité nous fait connaître l'autre.
L'amour de Dieu s'acquiert par le processus d'une grande école, l'école de la vie, l'école de toutes sortes d'apprentissages.
Oui, parce que tout peut nous parler de Dieu, puis on peut ne rien entendre ni ne rien voir. Ça, c'est justement, il faut un cœur qui est éveillé. Alors, la connaissance de l'être aimé, c'est ce qui perfectionne ultimement notre intelligence. Notre intelligence est faite pour connaître, bien sûr, connaître d'abord un métier pour pouvoir payer les tomates, mais surtout connaître l'être aimé. Alors, il y a le 9 à 5, mais il y a le 5 à 9, faut l'oublier. Alors, connaître l'être aimé, plus on connaît l'être aimé, plus on peut être attiré par lui. Et plus on connaît Dieu, plus on peut être miséricordieux. Autrement dit, être pardonné, ça fait partie de la connaissance profonde de l'être humain. Et on a besoin de ça. Et Françoise Dolto disait, elle rejoignait à ce moment-là la parabole du Père miséricordieux, « Quand on a réglé nos problèmes d'Édipe, disait-elle, on ne peut plus être infidèle. » C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que toutes les parties de moi sont atteintes par l'être aimé, sont rencontrées par l'être aimé, sont habitées par l'être aimé. On pourrait quasiment dire des orteils aux oreilles. Alors, prenons un exemple encore. La mère, avec son bébé, elle l'aime de partout, elle l'embrasse partout, elle dit « je te mangerai ». Bon, elle prend même des mots que je ne veux pas dire qui seraient vulgaires des fois, vous y pensez peut-être, bon, enfin. Elle l'aime, elle l'aime, elle l'aime. Et au fond, quand on s'aime, on devient tout visage. Alors, l'éros, l'éthos, finalement, agapé, c'est comme si tout le corps était un visage. Et quand on aime quelqu'un, on prend du temps à se déshabiller, on ne va pas vite. Mais quand on l'aime pas, ça se fait tout seul. « T'es-tu prête? »« Bon, OK, je suis prêt. » Alors, c'est toute là la différence.
Il y a une dimension qui est absente.
Une dimension qui est absente, c'est qu'il y a un émerveillement devant l'être aimé. Il y a une connaissance, pénétrante, qui est toujours en recherche d'admiration, de découvrir ce qu'on ne sait pas encore. Alors, quoi faire? La lumière, c'est-à-dire quoi faire. Maintenant, devant le mal, quoi faire devant le mal? Bon, d'encore là, rappelons-nous que Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants, que le soleil éclaire toutes les fleurs, même celles qui sont en train de pourrir. Alors, faut arriver à aimer sans juger, c'est-à-dire se situer à un niveau tel qu'on essaie tout le temps de comprendre l'autre, d'expliquer l'autre, de le connaître, de voir ce qui arrive, pour le faire dialoguer, le faire s'expliquer, le faire se trouver, le faire se retrouver. Parce que le pardon de Dieu nous remet dans une situation meilleure qu'avant. Maintenant, pour ça, il ne faut pas être écrasé par notre mal. Là, on arrive au tragique de l'histoire. Ne pas être écrasé par nos découragements, ne pas être écrasé par ceux qui défroquent, qui scandalisent, qui font le mal, qui nous trahissent, qui finalement, à un moment donné, des fois, on voit un lys qui pousse dans dans la boue, puis on dit, ben voilà, c'est notre situation, il faut réussir une fleur à travers tout ça.
Autrement dit, il s'agit d'apprendre à détruire des dimensions négatives en nous.
Absolument, c'est la croix. La croix, c'est un signe négatif. Vers l'horizontale, c'est l'histoire de notre vie, que par la verticale, l'amour de Dieu rend positif. L'amour de Dieu, l'amour rend tout positif. Pas compliqué. L'amour prend le négatif et en fait un positif. Le négatif n'est pas disparu, il est encore là. Mais qui va voir un trait négatif dans un signe positif? C'est impossible. Tu vois le signe positif, tu ne vois pas le négatif. Alors, l'amour transforme notre négatif et nos limites et nous fait accéder à ce qui est infini. Alors, la prière, par exemple, nous fait bénéficier de la puissance de Dieu en nous, qui croit en nous, qui nous donne ce qu'il faut pour passer à travers. La prière nous fait fonctionner au-delà de nos limites parce que nous fonctionnons avec les puissances de Dieu. Le jeûne, c'est bon le jeûne, c'est thérapeutique. Le jeûne, là, j'ai recommencé un peu à jeûner. C'est quoi le jeûne? Ça nous permet de nous maîtriser pour passer de l'éros à l'éthos puis à l'agapé, pour pas que ce soit nos cellules qui nous mènent, ni la fin de mois, ni je sais pas quoi. Ensuite, l'aumône, c'est-à-dire d'être capable d'être gratuit, pas rien que rechercher ce qui nous est profitable. Vous vous rappelez des 8 principes qu'on avait dit là? J'aimerais qu'on y revienne. Les 8 principes de la vie qui peuvent nous faire manquer notre vie, on va revenir là-dessus.
On va revenir là-dessus, c'est très bien.
Oui.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous étudions les béatitudes avec M. Raymond Truchon. Alors donc, nous en sommes, je crois, à terminer notre étude de la quatrième béatitude ce soir. Je pense que vous voulez nous reparler des grands principes de la vie.
Oui. Alors, ces 8 principes-là que je vais énoncer, au fond, je les ai pris dans le Dalai Lama, dans son livre « Les enseignements ». Et ce sont les 8 principes qu'il appelle les principes de ce monde. Et moi, j'aimerais qu'on les reprenne, mais aussi en voyant les 8 principes de Jésus-Christ. Au fond, c'est comme si on avait en nous 8 sortes d'instincts. On a 2 instincts fondamentaux, là, le plaisir et la douleur. Mais je voudrais dire que... Puis pour l'agressivité puis la concupiscence, comme on dit toujours. Là, bon. Mais là, je voudrais étaler un peu plus ça en 8 volets. Par exemple... 8 choses, 8 désirs qui peuvent nous pourrir ou qui peuvent nous faire accéder à des malheurs incroyables, puis qui peuvent aussi être transfigurés pour nous faire vivre un bonheur aussi incroyable. Par exemple, le premier principe, l'amour de la louange. On aime être louangé, on aime être louangé. Mais si on en fait un but de notre vie, là, c'est dangereux, ça. On va pouvoir être manipulé et finalement, on va se détruire. Un autre principe, c'est le rejet du blâme. On n'accepte pas d'être blâmé ou d'être critiqué, c'est dangereux ça aussi. Alors, quelle béatitude là, qui pourrait transformer ça, c'est de louanger l'être aimé et à ce moment-là, il nous louangera. Autrement dit, la réalisation de soi, c'est curieux, mais ça se fait. L'accomplissement de soi, c'est drôle, hein, mais ça se fait dans l'amour de la réalisation d'un autre. Alors,
dit souvent que l'amour appelle l'amour aussi.
L'amour appelle l'amour, mais là, il ne faudrait pas oublier qu'il ne faut pas faire ça d'une façon égocentrique. Autrement dit, on n'aime pas un autre pour être aimé. On aime l'autre véritablement, et c'est possible, ça. Alors, prenons, énonçons les 8 principes d'un coup, puis ensuite, on les reprendra un peu. L'amour de la louange et le rejet du blâme. Faire un but de ça, c'est pas bon. Désir du gain, crainte de la perte. Si on a toujours, faut toujours la pièce au bout, là. On n'ira pas loin. Le goût du confort et du luxe, crainte de l'inconfort et de la pauvreté. Si on n'est pas capable d'endurer quelque chose de pénible, on n'ira pas loin non plus. Même les sportifs savent ça. L'accueil de tout ce qui est plaisant puis le rejet de ce qui est douloureux. Alors, voilà 8 principes, 8 désirs, 8 tendances qui peuvent être convertis par ce qu'on peut appeler la miséricorde, la pitié, la contemplation, l'étude, l'amour. Alors, par exemple, l'accomplissement de l'intelligence, c'est la connaissance de l'être aimé. Il y a une louange de l'être aimé qui nous rend heureux. Et c'est tellement puissant que louer Dieu en toute vie, c'est s'accomplir soi-même complètement. Alors, louer Dieu en toutes circonstances, c'est s'accomplir soi-même. Prenons par exemple la volonté. La volonté, quel est l'accomplissement de la volonté? C'est s'abandonner au plaisir de l'être aimé. Alors, c'est pareil encore. Il n'y a rien qui peut nous réaliser tant que de nous offrir et de nous donner totalement à l'être aimé. Prenons par exemple nos sens. Qu'est-ce qui accomplit nos sens? C'est l'admiration de ce qui est beau. Alors, s'entourer de bonté, s'entourer de beauté, louer l'œuvre de l'être aimé, tout ça, ça accomplit nos sens. Qu'est-ce qui accomplit notre action? L'offrande dans un acte liturgique, c'est-à-dire traiter l'autre là, comme le Christ lui-même, parce qu'on est un corps du Christ. Alors, se faire, même prendre un café, on peut faire un geste de ça, là, on peut faire un geste liturgique. Alors, toute notre vie peut devenir une liturgie. Alors, à ce moment-là, c'est l'accomplissement de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de notre éros, de notre éthos et du notre cœur, qui est un lieu de communion de l'être aimé. Alors, qu'est-ce que l'homme? L'homme a des yeux, c'est des trous. Qu'est-ce que l'homme? L'homme a des oreilles, les oreilles, c'est des trous. Qu'est-ce que l'homme? L'homme a un corps, c'est pacté de trous. Alors, qu'est-ce que l'homme? C'est une capacité d'être en rempli. L'homme, c'est un grand trou de Dieu, c'est un grand trou de notre prochain, que l'autre peut combler, et que si on essaye de le combler par l'amour de soi-même sans l'amour de l'autre, c'est l'enfer.
Monsieur Truchon, si vous permettez, j'aimerais revenir sur une phrase que vous avez dite lors d'une émission précédente, et qui porte sur la prière. Je pense que l'agapé dont on parle aujourd'hui comporte aussi une dimension de prière. Vous avez défini la prière comme suit, et la question, je pense, est pertinente. Vous allez voir tout de suite. Je cite donc, « Priez, c'est pouvoir fonctionner au-delà de ses limites. Oui. » Je constate que votre conception de la prière est un peu éloignée du chapelet et de la genouilloire. Est-ce que je me trompe?
Bon, la prière, là, c'est un mot spécial pour dire simplement « dialogue ». Alors, la prière, c'est un dialogue avec l'être aimé. Comment voulez-vous être avec quelqu'un que vous aimez sans jamais parler? Même la présence va devenir finalement un meuble. Si on ne se parle pas, on ne sait plus ce que l'autre signifie. La présence ne suffit pas, il faut la parole pour l'interpréter. C'est évident que la présence est très importante, mais la parole permet cette présence et surtout l'offrande de soi. Alors, la prière, c'est un dialogue avec Dieu où le principal, c'est d'écouter. Parce qu'il faut écouter quelqu'un pour savoir quoi lui dire. Alors, au fond, c'est l'Esprit-Saint qui est dans nous autres, qui veut nous parler de Dieu et de nous-mêmes et de notre prochain. Et l'écouter, c'est apprendre à savoir quoi dire. Alors, la prière, à ce moment-là, nous fait communier à l'être aimé. Puis quand on communie un être aimé, là, ben on fonctionne au-delà de nos limites, parce que deux, c'est plus fort qu'un.
Pourquoi est-ce que vous dites que si on n'aime pas, on est en état de mort? Comment savoir si on aime véritablement, si on aime de l'amour dont vous parlez de manière à être parfaitement, disons, vivant?
L'amour est fondamentalement un acte d'espérance, c'est-à-dire une confiance que l'autre est une merveille qu'on n'a pas fini de découvrir. Cette merveille-là qu'on n'a pas fini de découvrir crée l'admiration, qui est un acte immédiat de l'amour. Et l'admiration crée le don de soi, le désir de servir l'être aimé, parce qu'on sent qu'il nous réalise justement parce qu'il est autre et qu'en fait, en lui-même, il nous dépasse. Saint Paul disait « Voyez tous les autres comme supérieurs à vous ». Ce n'est pas une fausse humilité, ça. C'est le geste d'amoureux de faire ça. Qu'est-ce que l'amoureux dit? C'est toujours l'autre qui est extraordinaire, toujours l'autre extraordinaire. Lui, il ne parle pas de lui. S'il commence à parler de lui, on va dire « Oh, il est orgueilleux, lui, là, je crois bien ». Alors, quand la Vierge dit le Magnificat, c'est pour louer le Seigneur, c'est-à-dire l'être aimé. L'émerveillement vient toujours de ce qu'on voit en face de nous, qui est l'être aimé. Les yeux, c'est fait pour voir dehors. Le cœur, c'est pour voir ce que le dehors signifie, c'est-à-dire un dedans. Alors, le dehors a besoin des yeux de la chair. Le dedans, c'est les yeux du cœur. Mais les yeux du cœur, c'est quoi? C'est une lunette spéciale qui voit l'autre comme unique et irremplaçable et inédit.
Monsieur Truchon, puisque nous allons terminer ce soir notre étude de la quatrième béatitude, j'aimerais revenir sur un des grands principes de fond, je pense, celle du fameux tandem Eros, Ethos, Agapé. Vous dites que le but de nos instincts humains, c'est de devenir des vertus, puis des dons du Saint-Esprit et éventuellement devenir des dons surnaturels et divins, que c'est l'émerveillement de Dieu qui nous atteint. Redites-moi comment on peut passer de nos instincts humains à l'émerveillement de Dieu.
Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est moi qui ai écrit ça, là, ben, je ne sais pas copier, je ne sais pas. Là,
je vous ai cité.
Oui, ben, j'ai dû prendre ça. En tout cas, c'est bien. Comment est-ce possible? C'est que notre instinct... Il y a un instinct pour défendre notre vie physique. Il y a un instinct pour défendre notre vie spirituelle. Mais quand on est en amour, on donne ces forces-là qui nous sont données. Alors, à un moment donné, à force d'être aimé dans nos pardons, dans les pardons qu'on nous fait, c'est qu'on apprend à pardonner. On a le goût aussi de pardonner à l'être aimé. Quand on découvre qu'on est une merveille de Dieu, que Dieu nous a pensé de toute éternité pour nous réaliser, on veut bien lui rendre ça. Alors, on répond à cet amour-là. Alors, ce qui arrive, c'est que notre instinct, au fond, on veut l'orienter vers ce qu'il y a de meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? C'est l'amour durable. Encore une fois, je veux t'aimer toujours sur les petits disques de 45 tours. Mais l'amour durable de l'être humain, c'est déjà beau, mais on est encore plus soif de ça. On veut le regard de Dieu dans le regard de celle qu'on aime, et la personne qu'on aime, au fond, juste Dieu peut la satisfaire. Bien, la Samaritaine avait peut-être découvert ça avec ses 5 divorces là, en ligne, là, mais ça n'a pas arrêté le Christ pour transformer ses instincts en vertus et ses vertus en dons du Saint-Esprit, parce qu'après, ayant rencontré le Christ, là, peut-être qu'elle a pu réussir un amour humain. Mais on dirait que ça prend l'amour divin et la foi pour transformer nos instincts, ou encore une prédication explicite, des témoins, mais ça prend l'amour pour réengendrer l'amour. Sans ça, on est comme des enfants loups élevés dans la forêt. Notre instinct pour devenir d'un don du Saint-Esprit, d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin appelait les dons du Saint-Esprit « quasi instinctus divinus », c'est-à-dire des quasi-instincts. C'est qu'à un moment donné, on vient quasiment comme avec nos instincts, on réagit en amoureux aussi vite que nos instincts étaient forts pour donner une claque. Autrement dit, ça prend, plus on se pratique à pardonner et à aimer, plus on réagit vite vers le pardon puis l'amour. Autrement dit, moins les chicanes durent longtemps, puis les boudages, là, ou les bouderies durent longtemps.
Chers auditeurs, je vous rappelle que nous étudions comme d'habitude les béatitudes et nous terminons justement notre étude de la quatrième béatitude. Monsieur Truchon, vous avez affirmé que l'amour sans la justice est un mensonge et vous écrivez encore que par ailleurs, la justice sans amour est un échec dans le plan de Dieu. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il faut parler du plan de Dieu quand on aborde des concepts d'amour et de justice? En termes simples, qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Pourquoi est-ce que l'amour et la justice des hommes ne suffiraient pas?
Des questions fondamentales. ça me fait rire parce que c'est tellement fondamental. Alors, ça représente aussi peut-être un peu notre culture. Du moment qu'on a expliqué l'origine du monde par le boom, là, ou l'explosion, ou l'implosion, c'est comme si on n'a plus besoin de Dieu pour que, pourquoi que le monde a été inventé par Dieu et qu'il continue d'être inventé d'ailleurs. C'est que, évidemment, vouloir, on pourrait tout voir au niveau humain seulement. Mais on vivrait un peu l'expérience que vivait l'Ecclésiaste, c'est-à-dire finalement que d'écrire, que d'arriver puis de dire, ben finalement, c'est rien que ça, la vie humaine. C'est que l'homme, en fait, est fait plus que pour l'humain, il est fait pour le divin. Le divin qui est caché dans l'homme, c'est notre humain le plus profond qu'on découvre par l'expérience de Dieu et par les témoins de Dieu. Mais j'aimerais... mais il y a tellement de problèmes de mal aussi dans notre vie. Comme l'amour dont on parle, c'est bien beau, mais on manque tellement d'amour. On vit tellement des blessures d'amour que ça paraît quasiment fou puis exagéré de parler comme on parle. C'est parce que sans Dieu, je crois qu'on a besoin de rédemption, on a besoin d'un rédempteur. Et je voudrais parler de ça maintenant. Surtout quand on est écrasé par le mal, par je dirais quasiment l'excommunication, c'est qu'on n'est plus en communion avec quelqu'un. Tout ça, là, ça devient de la foutaise, là, la béatitude. Un jour, quelqu'un me demandait, est-ce qu'on a le droit d'enseigner le bonheur? Est-ce que c'est pas de la fausse représentation? Est-ce que ça existe, le bonheur?
Mais c'est certain que ça ne s'enseigne pas véritablement, le bonheur.
C'est pas tout évident. Alors, j'aimerais parler, là, de sur quoi se centrer quand ça va mal pour retrouver une communion. Nous centrer. Le mal, là, c'est un feu qui nous brûle pour détruire ce qui nuisait ou ce qui nuit au bien.
C'est ça, tout à l'heure, vous parliez des feux qui nous dévorent, mais il y a des feux qui sont excellents, puis il y en a d'autres
qui
nous détruisent.
Ils dévorent le mal. Le feu, là, le feu dans la Bible, là, c'est toujours un instrument de Dieu ou un noyau pour détruire ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui est inutile et même des fois nuisible. Prenez par exemple un minerai. Un minerai, là, vous ne pouvez rien faire avec ça. Vous ne pouvez pas faire un char avec un minerai. Il faut le feu pour sortir le métal. Alors, du minerai au feu, il faut le du minerai au métal, il faut le feu. Bien, l'homme aussi passe au creuset des épreuves, de la douleur, de la souffrance, des échecs, de tout ça. Pour devenir lui-même, on dit, ben pourquoi c'est de même? Ben pourquoi c'est de même? En tout cas, c'est sûrement de même. C'est sûr qu'on s'instaure soi-même des perversions, puis on s'instaure soi-même des anti-lois qui nous unissent, puis on a vu tantôt les 8 principes qui peuvent nous perdre. C'est facile de manquer sa vie. On dit, est-ce que c'est difficile de la réussir? C'est-à-dire que plus on a de lumière, plus on voit clair. Le mal, au fond, c'est l'obscurité. Pourquoi je me cogne dans une table? C'est parce qu'il fait noir. S'il fait clair, je ne me cognerai plus dans la table. Alors, je vais utiliser la table. Alors, au fond, le mal et le bien, là, dans l'amour, là, sont utilisables tous les deux pour vivre une croissance qui n'a plus d'obstacles.
Je vous ai posé la question parce que je faisais un petit lien avec l'erreur du pharisien. Vous dites qu'elle n'est pas dans ce rêve de pouvoir traiter Dieu selon la justice comme il mérite de l'être. Elle est dans l'illusion de croire pouvoir y parvenir par ses propres ressources, de vouloir tirer de lui-même l'attitude qui atteint Dieu et que Dieu attend de nous. N'est-ce
ouais.
pas?
Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le pharisien? C'est quelqu'un qui traite Dieu comme un commerçant. Alors, je te donne tes lois, je te fais tes affaires, je te fais tes pratiques, donc tu me dois le ciel, tu me dois la vie éternelle. Alors, évidemment, l'Ancien Testament pouvait prêter à penser ça. On voit dans Marc 10, le jeune homme riche qui a tout fait ce qu'il avait à faire. Mais il n'y a pas encore l'amour, le gars. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas vécu vraiment Deutéronome 6-5, Lévitique 19-18. Tout ce qu'il a fait, là, c'est pour qui qu'il l'a fait? Au fond, c'est peut-être pour lui-même.
Au fond, le pharisien, il avait cru que son salut était négociable.
Non seulement négociable, mais au fond, c'est quoi qu'il cherchait? C'était lui-même. C'est son bonheur à lui. Mais c'est pas l'amour, ça. Alors, il n'était pas rentré dans le royaume. Pour entrer dans l'agapé, pour entrer dans le royaume, c'est un amour gratuit. Tu fais rien, il t'est offert, il t'est donné. Le salut, il est donné au monde entier par le Christ. Il est donné, il est donné. Alors, arrêtons de nous forcer pour l'avoir, il est donné. Forçons à le développer, à le vivre, en y croyant d'abord, puis ensuite, Plus on aime, moins on force. C'est évident.
Monsieur Truchon, malheureusement, le temps va nous manquer. Alors, avant de terminer ce soir, je vais vous demander, comme pour les autres béatitudes, si vous voulez bien nous résumer la leçon que nous pouvons tirer de la quatrième béatitude des assoiffés de justice.
Oui. Pour partir de ce qu'il y a de plus haut, je dirais que le but de la création, c'est de nous faire connaître Dieu d'abord. Ensuite, de l'utiliser, non pas pour adorer la création, comme le gars qui adorerait le doigt qui monte le ciel, puis il resterait fixé sur le doigt. C'est stupide. La création est un signe. Alors, étudier la création, la dominer, la connaître, l'utiliser, elle est un langage de Dieu, elle est une image de Dieu. Mais encore plus, étudier l'homme. L'homme est une image de Dieu encore plus forte que la création, et il peut même, Dieu lui a même donné un pouvoir de recevoir la grâce, de lui ressembler. Là, on rentre dans la gratuité, la connaissance, l'amour, l'homme nouveau, Romains 8 par rapport à Romains 7, parce qu'on peut prendre toutes sortes de déviations dans ce parcours-là. Alors là arrive la miséricorde. La miséricorde qui nous dit que l'amour, là, sans bavure, là, qui le connaît, qui le vit, qui n'a pas besoin de pardon, qui est parfait, ben, le pharisien le pensait. C'est là son trouble. Jésus a été bon envers tous les pécheurs, sauf les pharisiens étaient durs. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'aimaient pas, pour les réveiller, parce qu'ils étaient chromés.
Parce que l'amour humain, dis-je, est nécessairement truffé d'erreurs de parcours, de bavures.
Oui, la révélation. Au fond, cette béatitude nous fait vivre le parcours qui nous rend jusqu'à Dieu dans un pèlerinage. Nous sommes en voyage. Qu'est-ce que la révélation? L'aveu? Quand est-ce qu'un amour naît entre deux humains? Quand il y a des aveux, bien sûr, de bon coup, mais quand il y a des aveux de faiblesse aussi. On pourrait dire que quand on rencontre quelqu'un, on passe par trois étapes. La première, c'est la phase monographique. Là, on dit toutes nos qualités, puis on en met, puis nos diplômes, puis moi je fais ci, puis moi j'ai fait ci, puis... Ah, c'est extraordinaire.
On se raconte.
On se raconte, mais dans la ligne de l'éros. L'éros, c'est la tendance à trouver ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus parfait, ce qu'il y a de plus fin. J'ai rencontré une femme extraordinaire en fin de semaine.
On cherche un petit peu à vendre sa marchandise.
C'est ça. Ensuite arrive la deuxième étape, la fausse balloune. Là, on a tellement exagéré, là, hein, que ça pète. Là, lundi matin, le gars qu'on a rencontré le vendredi, qui s'était mis de déodorant, tout ça, là, il pue un peu, il n'est pas peigné, il n'est pas beau comme on pensait. Là, la balloune, elle vient de péter. Cet homme-là, c'était le Père Noël, là. Ça n'existe pas, cette affaire-là. Alors là, arrive la fausse balloune, elle pète. La troisième, c'est la collaboration. Cet homme-là, il y a du négatif, il y a du positif. Moi, j'ai du négatif, moi, j'ai du positif. On met ça ensemble, on fait un plus avec ça. Bien, ça, c'est le mécanisme humain. Quand on arrive avec Dieu... Ça part de l'éros. Là encore aussi, on pense que Dieu va nous éviter de se frapper en bicycle, il va nous éviter tout le mal à cause qu'on est bien et qu'on fait l'éthos. Mais il va arriver l'agapé, c'est qu'à un moment donné, il va falloir avouer. Alors, quand est-ce qu'un amour naît entre humains? Quand on se fait des aveux. Le principe de la révélation, c'est d'être capable de s'avouer. C'est ça qui crée l'amour. C'est une confiance progressive qui naît en nous et qui grandit à mesure des aveux qu'on fait à l'autre et que l'autre fait, et qui nous guérissent, évidemment.